Jamais un maton s'est permis de mettre une gifle.
Salut à tous.
Salut.
Vous êtes bien sur le 89.5 FM de Radio Dio. Vous écoutez l'émission Papillon, l'émission contre toutes les prisons et tous les enfermements. Voilà, donc aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale parce qu'on n'est pas en direct. Donc là logiquement on devrait être le dimanche 4 mars, il est 17h30 et comme tous les premiers dimanches du mois sur Radio Dio, c'est Papillon. Donc du coup voilà, enfin on vous salue tous, hein, tous ceux qui écoutent et particulièrement tous les détenus et proche de détenus de la maison d'arrêt de la Talaudière à Saint-Étienne et aussi de la maison d'arrêt de Corba à Lyon. Donc voilà, donc on rappelle hein, quand même que cette émission, c'est le relais des tolards, entre autres, et donc du coup, vous pouvez nous écrire à l'émission Papillon chez La Gueule Noire, 16 rue du Mont, MONT, 42 000 Saint-Étienne. Voilà, on répétera l'adresse en fin d'émission. Donc aujourd'hui, de quoi va-t-on parler dans cette émission ?
Alors aujourd'hui, on va écouter une interview de Claude, un ancien détenu du centre de détention d'Uzerche, en Corrèze. Et ensuite, on va annoncer une soirée qui aura lieu dans pas longtemps à Saint-Étienne sur l'enfermement des mineurs. Et on en profitera pour écouter un documentaire de témoignages de mineurs enfermés. Voilà, et mais pour l'heure et pour commencer, on va écouter des extraits de lettres d'un gars qui s'appelle Laurent, qui est enfermé à Corba. Et tu voulais présenter un peu plus Payoup ?
Ouais, bah peut-être juste que dire que c'est des gens de des murs ont des oreilles, qui est une émission un peu comme la nôtre, une émission anticarcérale sur Grenoble, et qui était en contact avec ce détenu, parce qu'il a été incarcéré dans la région de Grenoble, donc c'est Laurent Orsini. Et comme il savait que nous, on était rediffusés à Corba, il tenait à nous faire passer des témoignages de Laurent, donc une lettre qu'ils ont écrite à leur émission, et aussi pour en profiter pour lui passer un petit bonjour, quoi. Donc voilà, donc on espère que Laurent va nous entendre du fin fond du quartier d'isolement de Corbas. Et voilà, donc on s'écoute ça tout de suite et on se retrouve après.
On peut repréciser que c'est parce que Papillon est rediffusé sur Radio Canu, 102.2 FM à Lyon, qu'on peut être écouté, on l'espère, par les détenus de la maison d'arrêt de Corba. On va lire des extraits d'une lettre qui a été envoyée par Laurent, qui est actuellement à Corba. Laurent, il était avant à la maison d'arrêt de Vars. Il a été transféré parce qu'en fait, il avait accumulé des médicaments dans sa cellule dans l'intention de se suicider. Il a été balancé par un co-détenu et du coup,
On lui a confisqué tout ce qu'il avait dans sa cellule. Il est parti à Luxa et là-bas, il a menacé un surveillant avec une arme qu'il avait fabriquée. Il a récupéré ses médicaments, il les a avalés les uns après les autres. Il est tombé dans le coma, il a été emmené à l'hôpital et transféré après au quartier d'isolement de Corba. Du coup, il est là-bas depuis l'année dernière et pendant l'été, il a été interné aussi à l'UMD de Montfavet. Donc c'est l'unité pour malades difficiles, c'est un espèce de mélange entre le pire de ce qu'on peut imaginer d'un hôpital psychiatrique et le pire de ce qu'on peut imaginer d'une tôle, le tout ensemble. Dans la lettre qu'il nous envoie, il parle un peu de ce qu'il vit, là maintenant au quartier d'isolement à Corba, plus particulièrement des mesquineries dans le quotidien de l'administration pénitentiaire qui font péter les plombs et qui tapent sur les nerfs des détenus. Il parle aussi d'un rapport en fait qu'il voudrait récupérer, donc c'est un rapport qui a été fait à l'UMD de Montfavet justement, et remis à Corba, et tous les trois mois, en fait, quand on est à l'isolement, la paix décide de renouveler ou pas, mais plutôt en général c'est de renouveler la mesure d'isolement. Et du coup, il est passé en commission au mois de décembre pour demander à ce que la mesure d'isolement soit levée, et là, le rapport dont il parle dans cette lettre, c'est... justement parce que le rapport sur lequel l'administration pénitentiaire s'appuie pour maintenir l'isolement, c'est un vieux rapport qui date de 2010. Et lui, il voudrait pouvoir produire un rapport plus récent qui pense pouvoir être favorable. Sauf que quand les ERIS l'ont ramené à Corba, au miracle, le rapport a disparu. Et depuis, tout le monde se renvoie la balle. La SPIP, le SMPR de Corba disent chacun qu'ils ne savent pas où est ce rapport et que ça ne les concerne pas. Et Laurent, il a envie de le récupérer. Du coup, dans cette lettre, il parle de l'accès aux soins et puis du fait que l'administration pénitentiaire utilise absolument tout contre lui pour pouvoir le laisser au quartier d'isolement. Là, par exemple, le fait qu'il ait voulu prendre une assurance obsèques, c'est considéré comme le fait qu'il peut être dangereux pour lui-même ou pour les autres. Et du coup, c'est utilisé comme un argument pour continuer la mesure d'isolement. Voilà. Alors, voilà l'extrait de la lettre. Je n'ai toujours pas ce rapport de l'hôpital de Montfavet à ce jour, mais à force de bataille, le docteur Dalle, psychiatre de Montfavet, va me l'envoyer, donc j'attends de le recevoir, ça fait quand même 3 mois maintenant. Malgré qu'il a été remis à l'administration pénitentiaire lors de mon retour de l'hôpital par les ERIS qui m'ont remonté jusqu'à la maison d'arrêt de Corba, l'administration pénitentiaire ne souhaite pas que ce rapport apparaisse. De plus, ces jours-ci, j'ai eu droit à une sanction de la part de Madame Anini, la directrice de Corba, pour avoir déposé une plainte auprès du procureur de Lyon pour un prélèvement sur mon compte d'une somme pour payer une paire de draps, soi-disant que j'aurais dégradé. Sur ça, je fais appel au médiateur pour régler ce problème. Les draps, ils ne l'ont pas fait constater le jour du ramassage et sont venus me faire signer une semaine plus tard une reconnaissance de dette pour détérioration de draps, que j'ai refusé de signer, pas de preuve de leur part. De plus, ça fait 9 mois que je suis ici, je n'ai jamais eu de problème avec mes draps. Puis, plainte pour mauvais traitement, car malgré tous mes courriers faits à Madame Anini pour me plaindre que mes correspondants internes ne me répondent pas, pour une demande chez le dentiste où je suis restée sans réponse pendant plus de 3 mois malgré mes plaintes de douleurs importantes et que j'ai signalé ces problèmes aux infirmières qui passaient au quartier d'isolement pour savoir si tout va bien chaque semaine. Madame Anini ne bouge pas. Puis, pour ma SPIP, Madame Mathieu, à qui j'ai demandé des cours de remise à niveau avec Auxilia, qu'on a droit à avoir au QI, depuis plus de 2 mois et qui n'ont toujours pas commencé. Ne voyant pas ma SPIP bouger pour que je puisse avoir accès à ses cours, j'ai écrit à Madame Anini qui ne répond pas non plus sur ce sujet. Sans compter ce certificat que je réclame depuis plusieurs mois au SMPR et Madame Anini qui ne répond de toute manière jamais. Puis, sur d'autres faits que je subis ici à Corba, il faut savoir que Madame Anini me refuse d'être en contact avec des personnes féminines. Ah oui, j'oubliais. J'ai fait une demande de parloir visiteur il y a plusieurs mois à ma SPIP et à Madame Anini. À ce jour, je ne l'ai toujours pas eue. Alors qu'une infirmière ici me voit chaque semaine, comme tous les détenus du quartier d'isolement, le lieutenant du QI m'a répondu que la paix ne souhaite pas que je sois en contact avec une personne féminine, car s'il arrivait quelque chose, ils veulent se protéger de la presse. Là, je ne comprends pas, car ils ne vont pas jusqu'au bout. Ils me privent de présence féminine pour le psy, le parloir visiteur, que je n'ai pas encore eu, mais j'ai une SPIP et l'infirmière, que je vois une fois par semaine. Va comprendre, c'est juste du cassage psychologique. À cause de cette plainte, Madame Anini, la directrice, s'est remise à me faire payer la taxe télé frigo qu'elle m'avait arrêtée depuis 2 mois à cause de mes problèmes financiers. 17 euros de taxe par mois. Je ne la payais plus depuis 2 mois. Le jour où j'ai fait cette plainte, elle s'est remise à me la faire payer. Voilà ce que je subis ces derniers temps. Il a fallu que je montre que je n'allais pas bien pour que certaines choses bougent. Il te pousse à bout jusqu'à l'extrême de tes limites. Puis, si tu pètes un plomb, on te fait passer pour un fou. Donc voilà comment la paix arrive à tuer des gens, juste par petites pressions, qui ne paraissent pas importantes, mais quand il y a des accumulations de ce genre de choses, que la direction s'en fout complètement des plaintes des détenus, qui ne sont ni écoutés ni compris, qu'il faut qu'on tape du poing sur la table pour faire valoir ses droits, si on arrive à le faire sans se retrouver au quartier disciplinaire. Ce n'est pas normal du tout, ce sont des traitements dégradants, alors voilà pourquoi il y a tant de morts ici à Corba, et je comprends mieux pourquoi ici plus qu'ailleurs.
Ben Laurent voulait te faire un coucou de Grenoble, te souhaiter du courage, te dire qu'on pense à toi et puis qu'on pense à tous les gens qui sont à l'intérieur et qu'on vous souhaite du courage aussi. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur Radio Dio 89.5 FM. Donc vous venez d'entendre l'enregistrement réalisé par les copains des Murons des Oreilles, donc qui est l'émission anticarcérale de Grenoble. Et c'était la lecture de la lettre de Laurent qui est en quartier d'isolement à Corba, ainsi qu'un petit message qui lui était adressé. Et ben nous aussi on le salue Laurent et voilà et n'hésite pas aussi à nous écrire s'il y a quoi que ce soit.
Bon courage
et voilà et à ceux de Grenoble aussi qui nous entendront. Et ben voilà s'ils ont des petits messages qu'ils n'hésitent pas aussi à nous les faire passer parce que l'émission aussi Papillon elle peut servir à ça, à diffuser des messages pour des proches pour les personnes qui sont à l'intérieur. Voilà, donc là maintenant on va écouter une autre interview qui était, enfin du coup une interview qui a été réalisée par l'émission Natchav, donc qui est une autre émission anticarcérale, cette fois-ci qui est à Nantes. C'est une émission qui est bimensuelle, hein, ils font deux émissions par mois.
Hebdomadaire maintenant.
Hebdomadaire, voyons. Eh ben, c'est bien tout ça. Et donc voilà aussi la même vocation qui relaie la parole de l'intérieur et là en fait de l'intérieur des prisons et là donc c'est une interview de Claude qui était un ancien détenu qui était un ancien prisonnier du centre de détention de Userche et qui revient sur comment ça se passe dans ce centre de détention. Et je ne vais pas en dire plus parce que Natchav le fait très bien et que Claude, c'est assez éloquent ce qu'il dit.
Bon, salut Claude.
Salut.
Et alors, toi, tu as passé un an au centre de détention d'Userche, si c'est bien ça.
Ouais, ça se passait environ un an.
Ouais, c'était, toi, tu y étais en 2010.
Ouais, fin 2010, début 2011.
D'accord, ok. Parce que toi, nous, on s'intéresse là à au centre de détention d'Userche. Bon, on s'intéresse déjà aux prisons de manière générale, mais là, au centre de détention d'Userche, parce que si mes souvenirs sont bons, l'été dernier, il y a eu deux prisonniers là qui ont fait sortir des lettres dans la presse, notamment suite à la mort d'un détenu. Voilà. Et qui, eux, dénonçaient aussi cette mort-là et les conditions de détention au centre de détention d'Userche. Et donc voilà, nous, on voulait savoir, toi, si tu pouvais nous en parler.
Sur ce sujet, ouais. Ouais. En fait, normalement, dans un CD, tout ce qui est porte, normalement, dans les ailes, vous pouvez au moins naviguer. Là-bas, vous arrivez, c'est fermé.
Ok.
D'accord, donc tu peux sortir de ta cellule, mais tu peux pas changer d'étage.
Ouais, dans un couloir.
Ok.
Le problème, c'est que le système fait que le détenu
Ouais, parce que du coup, sur un étage, en cellule, t'as rien.
Le petit jeune qui est là, qui est pas trop débrouillard, il va essayer de faire cuire ses pâtes, mais si vous avez un bonhomme en face et qui lui dit non, moi je fais cuire, j'en ai pour une heure, ben l'autre, il a pas mangé, quoi.
D'accord, et sachant que t'as pas...
La détention fournit quand même des repas, mais voilà, ça coûte plastique, c'est chauffé dans des barquettes. Ils font faire des stages à des gars qui ont l'hépatite C en cuisine. Non, on dit en rigolant, ouais, l'hôpital c'est pas bon, c'est cuit à l'eau, mais là-bas c'est encore pire, quoi. Attends. On mélange tout et n'importe quoi en entrée, vous ne mangez même pas l'entrée.
Et en plus, là tu dis, tu disais, il y a deux plaques par étage, en plus t'as pas le droit de faire des chauffes, c'est-à-dire que quand tu fais une chauffe dans ta cellule, tu te prends un rapport.
Ouais, tu prends un rapport, au bout de trois rapports c'est isolement ou mitard.
Ouais. Donc voilà, t'es forcément confiné à devoir suivre ce qu'ils ont décidé, eux, que tu devais faire, quoi.
Bon, voilà, t'es bloqué, tu peux pas faire autrement.
Voilà.
Et normalement, dans d'autres CD, t'as droit à avoir au moins une plaque pour faire ta cuisine. Là, t'as rien.
Et des plaques, tu peux en cantiner ou pas du tout?
Non, t'as pas le droit.
D'accord.
Ah bah, je veux dire, vous avez le droit de à rien cantiner. En cantine extérieure, c'est extrêmement dur d'avoir quelque chose. Moi, il y avait un collègue, enfin un petit jeune qui était à côté, dans mon couloir, dans l'aile. Je lui ai fait peut-être 5-6 lettres pour lui commander une paire de chaussures, et il a jamais reçu.
D'accord. Ah ouais. Et pourquoi il est parti?
Il allait demander au chef de bâtiment comment ça se fait et tout. Ils lui répondent, on a pas eu votre commande, ça va arriver, vous êtes sûr que vous avez posé le papier, que des choses comme ça, quoi. Et
d'accord.
Mais pendant le gap, pendant plus de 3 mois, même plus, il a pas de basket. Je suis parti, il n'avait pas encore ses baskets. Les détenus sont sous tension, quoi. Ils ont droit à rien, hein. On est prisés, quoi.
Ouais. J'ai l'impression, en fait, que...
Pas droit de console, pas droit de commander de console.
Ouais.
La télé, elle a 26 euros par mois.
Par détenu ?
Là, il y avait un collègue, vous avez droit à avoir un frigo aussi. Donc, vous faites des cantines, c'est pour pour commander à manger.
Ouais.
Vous donnez des listes. Et toutes les semaines, c'est reporté et vous pouvez avoir votre cantine, quoi. Et le monsieur, là, le collègue, il avait commandé un frigo, il avait fait sa comptabilité, et ils lui ont livré le frigo. Il a eu ses cantines, par exemple, le mercredi, ils lui ont livré le frigo le jeudi, et le vendredi ou jeudi après-midi, pour pas mentir, ils sont revenus, ils lui ont dit non, ben, on vous reprend le frigo. Bah, il dit, j'ai commandé des produits frais. Il dit, j'ai fait exprès d'avoir le frigo. Bah, il dit, comment ça, mes calculs, ils sont bons. Ils lui ont dit, ben non, on vous a fait contrat pour le frigo, mais en fait, la comptabilité a retiré 2 euros pour le sport. Donc, vous n'avez plus assez pour le frigo, on vous le reprend. Et il a dit, ben non, je peux pas, moi, le sport, vous me l'enlevez, ça fait rien pour ce mois-ci. Moi, je garde mon frigo et mes produits frais. Bah, ils ont dit, non.
Ils sont repartis avec le frigo.
Donc, ils ont fait un contrat, vous voyez, et le détenu, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? C'est ça, ou sinon, ben, t'es pas content, ben, mitard.
Donc, j'ai l'impression, toi, dans ce que tu racontes, que tout est compliqué, tout est fait, en fait, pour que ta détention soit compliquée, et que dès que tu vas gueuler, on va te menacer du mitard, ou de d'autres quartiers du Célé et du Zerch.
Voilà, isolement. Ouais. Pendant des mois et des mois. Ouais. Ils s'en foutent, après.
Ce dont tu parles, c'est le B0. C'est du coup c'est un étage particulier là dans le centre de détention où quand tu gueules un peu ou quand ta tête revient pas trop, on t'envoie là-dedans.
Voilà.
C'est ça. Et donc le B0, c'est...
Vous avez droit à une douche et encore par, ou 5 douches par semaine et une promenade ou deux s'ils veulent bien vous sortir, et puis il y aura.
Ouais, le B0, c'est...
C'est un quartier disciplinaire, en fait.
Ouais, c'est un quartier.
Voilà.
Ouais. Et on te fait. C'est la menace qu'on a.
Vous pouvez faire manger, enfin le peu, même si vous voulez faire chauffer un café, ben vous pouvez pas, vous pouvez rien faire.
Ça c'est vraiment utilisé. Et ça, c'est. Ils en parlent, les matons, ils en parlent pour menacer les détenus qui gueulent un peu, ou.
Bah oui, direct, et puis ça se sait, hein, de toute façon.
Ouais.
Et on voit, après, les mecs qui, des fois, ils sont pas contents, ben ils arrivent et ils les traînent menottés, ils les traînent et les mettent là. Et nous, quand on passe, il y a comme des petites coursives, et par exemple, à l'infirmerie, ou au sport ou à la Le chef peut s'énerver, il peut dire, attendez, j'ai commandé, moi, comment je fais maintenant?
Bah oui, bien sûr.
Ils s'en foutent, non? Eh ben, le gars, il est pas content, il gueule un peu, ils vous le prennent et vous le mettent là-bas. Alors après, il peut rester quelques mois sans qu'il passe en commission. Oui. C'est normalement, quand vous êtes, vous êtes replacé, soit un transfert, ou là, par exemple, vous allez au B0, vous voulez changer de bâtiment, ben, vous passez en commission devant des gens, s'ils acceptent ou pas, quoi. Eh ben, là, rien. Vous allez comme ça, il n'y a pas de commission, vous savez pas combien de temps vous pouvez rester là-bas.
Ouais, et puis t'as aucun recours par rapport à ça, quoi. C'est vraiment le truc arbitraire.
Voilà. Normalement, vous faites des bêtises, bon, vous avez des rapports, le système il devrait être comme ça. Enfin, c'est eux qui le disent, le système carcéral, normalement il est comme ça. Vous faites des bêtises, vous avez deux ou trois rapports, au bout de temps, ben, vous mettez par exemple, vous passez en commission, vous avez trois rapports, vous avez fait des bêtises, on vous a prévenu, on vous met un mois de confinement. Et des fois vous allez là-bas, vous savez pas quand vous allez ressortir. Voilà, bah, par exemple, il y avait un autre petit jeune, il a pris un rapport, pour rien du tout. Il demande aux surveillants pour pouvoir sortir, pour pouvoir descendre, prendre des feuilles, pour commander par exemple des chaussures, quand il y a une extérieure ou des fleurs pour faire envoyer. Et lui, il accepte, il descend, il remonte, il va pour rentrer avec le badge, parce que c'est des badges en fait, c'est électronique, le badge la porte et eux ils voient en bas au pic, au quartier où ils nous surveillent. Donc ils appuient sur un bouton et vous rentrez. Ben là, ils n'ont pas voulu le faire rentrer, il y a un surveillant qui est monté, il a pris un rapport. Mais il a dit, c'est votre collègue, il m'a laissé sortir. Non, t'as pas de baladé, tu le sais.
Ah ouais, ouais. Ah, c'est vraiment juste
pour faire chier. Il a pris un rapport, le mec.
Ah, du coup, en fait...
Donc il a demandé, vous voyez.
Ouais.
Et ça, c'est quotidien, c'est tout le temps.
Tout le temps.
Et du coup, ça craint les prisonniers, là. Tu dois être tout le temps en tension, là-dedans, parce que si... Ça...
Ben oui, regardez, je vais vous expliquer. Même il y en a un, il a mis un coup de couteau à l'autre.
Ouais. Et du coup, par rapport à tout ça, parce que tu vois la manière dont t'en parles, ouais, ça a l'air vraiment d'être très tendu et extrêmement énervant. Est-ce que t'as des mouvements collectifs de réaction ou des blocages ou des trucs comme ça là qui se font?
Là. Parce que nous, on va vous bloquer, monsieur, on va vous garder, on veut pas qu'il y ait de signes. cinéma, mais appeler l'infirmerie, il va mourir. Il n'a pas tellement insisté que le petit jeune surveillant, moi, en gros, ça va, ça a été un stagiaire, vous voyez.
Ouais.
Bon, il passe à deux, là, il était passé tout seul en plus, mais bon. Et ben, il a appelé, et ben, le mec qui est venu, ben, ils l'ont fait un enfant de stomac, ils l'ont fait un overdose.
Ouais, ok. Et du coup, en plus, t'es même obligé de faire un blocage pour que l'autre, il aille à l'infirmerie, quoi.
Ah ouais, ben, j'avais un homme de 40 ans, à peu près. Il se levait de moins en moins, il n'arrivait plus à les vider, comme on dit, à faire ses besoins. On a dit au surveillant, oh, monsieur, on lui fait des lettres, ça fait une semaine, rien. Deux semaines, rien, on insiste, pareil, on a bloqué. On a dit, on va faire, quitte à ce que tout le monde y ramasse, que les hérissales viennent, qu'on prenne des coups. Mais non, il faut faire quelque chose, on va pas laisser monsieur. Moi je le portais pour qu'il aille prendre sa douche. À la fin il se levait même plus, on lui mettait ses chaussettes presque. Il se vidait plus, on lui disait, il essayait d'aller à l'infirmerie, oui, mais personne lui ouvrait la porte.
Ouais, il faut trouver les gens,
c'est et le temps que ça dure, mais le mec il est en train de mourir.
Et du coup vous avez bloqué
pour qu'il... tellement on a insisté, un collègue qui s'est énervé, ça a failli être chaud même, vous voyez, presque à prendre le surveillant en otage, hein, on est obligé de faire ça. Ouais. Et d'être solidaire, parce qu'ils se font foutre. Et ben, le monsieur, il est parti à l'hôpital, il a failli faire empoisonnement du sang. Après, ouais. Ils vont les re-rentrer, les repartir à l'hôpital, mais il s'est fait opérer et tout. Donc, on n'aurait rien dit. Ben, les surveillants, ils le laissaient mourir.
Il serait mort, ouais.
Il y a un monsieur dans l'aile en face, dans le couloir d'en face, il est mort. Il est resté une semaine, 15 jours pareil dans le lit. Et les petits jeunes, ils lui donnaient même plus à manger. À chacun, mais ils voulaient pas manger, ben alors ils donnaient plus, ils disaient aux surveillants, les surveillants ils ont rien fait, eux ils ont pas voulu prendre de risque de bloquer, et ben le monsieur est mort.
Et du coup les descentes d'Héris c'est fréquent à Usherche?
Ah ben ça arrivait quelques fois, oui, et les mecs montaient au mitard, parce que par exemple il demande un transfert, parce que là-bas il n'en peut plus, ça fait un an qu'il est là, il a par exemple 2-3 ans à faire, il dit non, si je reste ici je vais me tuer, je vais me pendre.
Ouais.
Et ils demandent le transfert, ils font repousser, ils vous donnent pas les dates, alors qu'ils doivent vous répondre. Moi j'ai vu un papier noir sur blanc, des SPIP, alors là ça va loin aussi, noir sur blanc, comme quoi elle n'est pas apte à faire une conditionnelle ou une permission à un détenu. Alors que c'est marqué qu'à mi-peine il a le droit de sortir. Alors répondre ça.
Et du coup, en fait.
Il attend, donc les gars, ils disent, ouais, ils nous gardent. Parce que le CD n'est pas plein. Ouais. Donc on a l'impression qu'ils font tout pour garder les détenus, le maximum longtemps, le plus longtemps possible. Et il y en a pas un, il dit, moi, ça fait un an ici, je demande mon transfert, ça fait 3-4 fois que j'essaye de le demander. Il me le refuse à chaque fois. Alors le monsieur, lui, il va essayer de bloquer, il va dire, non, moi, je ne rentre pas des promenades. Ben, les iris vont arriver, ils se prennent des coups. Et gazé, coué, tout le bordel, ils les attachent, ils les font monter carrément en marche arrière, ils leur cassent presque les bras, ils les font monter au mitard, et moi j'étais en dessous du mitard, la cellule.
Ouais.
Et je peux vous dire, ils sont frappés là-haut. On les écoute, et ils les traitent comme des chiens. Par terre, t'as toujours pas par terre, t'as pas de manger.
Et dans ce genre de cas, quand le mec il dit, bah moi je remonte pas de promenade,
Le gars il veut juste partir de là-bas, il dit non, c'est pas possible. Il dit, si je dois faire un mois de mitard, j'étais un mois de mitard, mais il faut que je sorte de là. Quitte à me faire défoncer, enfin en étant mal poli, me faire frapper tous les jours, que ce soit la misère, mais je vais vivre la misère, l'enfer pendant un mois ou plus, parce que vous avez droit à un maximum de temps, après ils sont obligés de vous faire partir. Eh bien les gars, c'est ce qu'ils font.
Allez.
Et voilà, et pendant un mois ils ont droit à rien, ils se font frapper, et voilà, c'est la misère.
En fait, j'ai l'impression que là, l'administration, là, notamment au CD d'Usherche, leur but, c'est de casser le détenu, quoi. C'est clair, tu rentres dans leur CD d'Usherche, le but, c'est que tu marches droit, et si tu marches pas droit, on va te casser, ou on va te laisser mourir. Ouais.
Eux, ils veulent faire leur petit truc, leur tranquille. Mmh. Ils sont payés, et comme ça, au moins, ils en font mieux, c'est. Mmh. Les cantines, vous avez rien. Vous commandez, vous allez là-bas, et ils vont monter des choses. Même des fois, vous êtes obligé de faire vos calculs, parce qu'ils vous arnaquent sur l'argent. Ça va loin, quand même, aussi. Des 100 euros de moins. Ouais. Vous avez des sous, vous touchez, par exemple, vous touchez des 500 ou des 1000 euros qu'on vous envoie, par exemple, il y a des détenus qui ont ça, ils ne peuvent pas commencer. courant ni comment ni sans rien. Vous pouvez, normalement, si vous voulez, vous avez le droit d'acheter une télé, d'acheter des marmites ou une poêle. Eh ben, il y en a, ils ont rien. Ben, vous n'avez rien. Les lettres, il n'y a rien qui passe, tout simplement. Vous êtes obligé de. De faire du faux, quoi. Essayer de faire ce qu'on n'a pas le droit pour essayer d'avoir des choses, essayer de contacter des personnes, dire les gars, ça va pas, essayer de me faire l'avocat, essayer de faire des choses, mais il n'y a rien qui avance. Mmh. On n'a aucun moyen, si les lettres passent pas, on peut prévenir personne.
Pour continuer, là tout à l'heure, tu parlais des morts. Cet été, notamment, tu vois, sur les lettres qui étaient sorties, c'était par rapport à la mort d'un mec qui s'appelait M. Damouta, et même au mois de juin, tu avais eu aussi un suicide. Et on se posait la question, c'est quoi les réactions? Parce que toi, cet été, il y a eu une réaction, il y a des détenus qui ont écrit à la presse pour dénoncer là, c'est mort. Et puis au mois de juin, on ne sait pas ce qu'il est. Enfin, il y avait eu un suicide, et puis on ne sait pas s'il y avait eu de la réaction. Est-ce que tu peux nous en parler de ça, ce qui se passe quand tu as ce genre de drame qui arrive?
Surtout quand c'est pas relayé du tout à l'extérieur, quoi. Parce que cet été, nous, on a lu par hasard cet article, mais en gros, ça, on n'a pas parlé beaucoup du tout à l'extérieur.
Ça. Ouais, quand vous écoutez les gars qui sont allés au B0, ils disent c'est des nids à chiens, hein, c'est même pire. Le sol il est pas fait, il y a rien, ça amène le béton. Au B0, là, quartier isolement, il y a même pas de carreaux sur les fenêtres, hein, sur certaines cellules.
Bon, et Claude,
ouais.
On te remercie.
Ok, bah, j'espère que ça apportera mieux pour certains détenus.
Puis on va essayer de rester en contact, de voir aussi vous ce que vous faites.
Et puis en fait, de toute façon, nous on suit cette histoire et puis on fait de telle sorte qu'elle sache au maximum à l'extérieur.
D'accord.
On fait ça. You will not be able to stay home, brother. Not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with
a brand new process. There will be no slow motion or still lights of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hahn, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised. The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Alors, vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Papillon sur le 89.5 FM de Radio Dio. Comme on vous l'a dit en début d'émission, c'est une émission un peu spéciale. Nous sommes en différé et voilà, on a écouté en fait une interview qui a été réalisée, donc l'interview de Claude qui a été réalisée par l'émission Natchaf de Nantes. Et juste ce qu'on voulait redire, c'était que Claude qui a été incarcéré, donc comme il expliquait à Uzerche, c'est quand même assez éloquent ce qu'il raconte, et aussi voilà, ça montre à quel point il est difficile quand on est en prison et ben de transmettre une parole, de dire ce qui se passe à l'intérieur, et son témoignage est vraiment précieux à juste titre, parce qu'on y apprend des choses quand même vraiment très très trash. Juste, j'ai oublié de dire, je reviens, là, je fais une digression. On a écouté Gilles Scott-Heron en musique, c'était Revolution Will Not Be Televised. Voilà.
Maintenant, on voulait annoncer une soirée qui va avoir lieu à Saint-Étienne le vendredi 9 mars, à l'espace autogéré La Gueule Noire, dans le quartier Bellevue. Donc, c'est une soirée qui se présente comme soirée anticarcérale sur le thème de l'enfermement des mineurs. Et en fait, cette soirée, elle va être en soutien aux inculpés de la Bèche. Donc c'est 5 personnes qui ont été arrêtées parce qu'elles sont accusées d'avoir saccagé, entre mille guillemets, les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse de Toulouse. Et voilà, donc ces personnes, comme plein de gens qui se font arrêter, ont besoin de soutien. Donc il y a une soirée de soutien le vendredi 9 mars. Et y a un comité de soutien assez large qui s'est mis en place autour de ces personnes. Et pour resituer un peu cette affaire, on voulait vous lire un des derniers textes qu'ils ont écrit, qui est disponible sur leur blog.
Alors, la Bège, on en est où ? À Toulouse, le 15 novembre dernier, 7 lieux de vie ont été perquisitionnés, 15 personnes interpellées, dont 6 placées en garde à vue, soupçonnées d'avoir participé au saccage des locaux de la protection judiciaire de la jeunesse à La Bège le 5 juillet 2011. Dans les faits, quelques tags et un peu de merde déversés. Finalement, 5 mises en examen entraînent 4 détentions préventives à la maison d'arrêt de Seyss et un placement sous contrôle judiciaire. À charge, l'appartenance à une, entre guillemets, « mouvance d'ultra-gauche toulousaine », fantasmé, dont l'un des principaux champs d'action serait la lutte anticarcérale. Il faut que quelqu'un paye pour la profanation de la maison de justice de la Bège. L'action du 5 juillet était survenue en solidarité avec les mutins de l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavore. 2 mois plus tôt, la quasi-totalité des détenus s'était révoltée et avait saccagé des dizaines de cellules. La réponse de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse qui cogère les EPM fut tristement banale. Mesures d'isolement, conseils disciplinaires, transferts, ainsi qu'une descente des équipes régionales d'intervention et de sécurité, spécialistes cagoulés du matage des luttes en prison. Après l'enfermement dedans, l'enfermement dehors. Les 4 prévenus de novembre sortent de tôle après 3 mois de préventive et sont placés sous contrôle judiciaire. La liberté, entre guillemets, dont ils devraient se réjouir, ressemble de près à une énième sommation à la soumission. Arrêtés sur la base d'affinités, de contacts téléphoniques et d'engagements politiques dans diverses luttes, la machine judiciaire n'a pas fini de pourrir la vie. c'est bien ce qu'elle fait le mieux, des mises en examen. On voit clairement le rôle du contrôle judiciaire. Officiellement nécessaire à l'intégrité de l'enquête, il s'agit en fait d'une énumération de contraintes destinées à prolonger la, entre guillemets, privation de liberté. Des comptes à rendre quant à ses déplacements, à l'obligation de pointer chaque semaine dans un commissariat donné, en passant par l'interdiction d'entrer en contact les uns avec les autres, le message est clair, la vie ne reprend pas. Tant pis si le commissariat en question est à 600 bornes de tout ce qui faisait le quotidien, si certaines de nos potes n'ont pas le droit de se voir et étaient ensemble en cellule, la justice se passe de justification, elle broie, y compris les moindres désirs de se retrouver. À l'entrave directe de la prison se substitue celle plus sournoise d'imposer l'auto-flicage. Il faut anticiper ses moindres faits et gestes avec la menace permanente de retomber. Des milliers de personnes subissent cette pression quotidienne. Ils sont d'ailleurs des centaines de milliers à alimenter les divers fichiers de signalisation des flics. Tout est bon pour se faire prélever ADN, empreintes digitales et photos. La quantité de données accumulées augmente à un rythme effréné. Ce projet de fichage généralisé comme symptomatique de la société de contrôle nous fout la gerbe. Refuser les prélèvements expose théoriquement à de lourdes amendes et à de la prison ferme, mais dans les faits, il est crucial de saboter cet outil de maintien de l'ordre social. Tous les gardés à vue de novembre ont refusé de se soumettre aux prélèvements, qui ont par conséquent été effectués contre leur gré, saisis de couverts, mégots, gobelets, etc., et devront en répondre devant la justice le 9 mai prochain. Bref, la libération récente de la dernière des incarcérés ne doit pas occulter que l'instruction, aussi creuse soit-elle, se prolonge. Nous voulons l'arrêt immédiat de toutes les poursuites, nous voulons la levée de tous les contrôles judiciaires, nous voulons la suppression totale de tous les fichiers, nous voulons la destruction de toutes les prisons, nous voulons la disparition de toutes les formes d'enfermement, février 2012. Et alors ce texte, vous pouvez le trouver sur pourlaliberté.noblogs.org.
Voilà, donc ça c'était un texte au sujet des inculpés de la Belge, en soutien desquels sera la soirée du 9 mars à la Gueule Noire. Et tu veux dire quelque chose, Soso ?
Oui, qu'on est désolé, c'est l'émission des tuberculeux.
Ben ouais, on est malade. Et voilà, et en fait, ce qui va être intéressant dans cette soirée, c'est que c'est l'occasion de revenir sur l'enfermement des mineurs et de dire que c'est vraiment dégueulasse d'enfermer des mineurs, d'enfermer des gens en général, mais des mineurs aussi. Et on aura l'occasion d'écouter des témoignages audio d'enfermement de mineurs avec en écoutant des extraits de Bande Son Organisée, qui est un gros documentaire qui a été réalisé entre autres au sujet de l'enfermement des mineurs, et c'est des mineurs enfermés qui témoignent. C'est vraiment intéressant, on trouve ça sur internet, sur un site qui s'appelle bandeorganisée.org. et nous on l'a trouvé super touchant et super intéressant, ce documentaire. Donc on va tout de suite en écouter une grosse partie, toute la partie qui parle surtout des EPM, des établissements pénitentiaires pour mineurs. Et à savoir que donc au cours de la soirée du 9 mars, il y aura l'occasion d'écouter une partie de ce documentaire et de discuter autour de tout ça avec notamment la réalisatrice. Donc tout de suite, on écoute Entre quatre murs, l'une des parties du documentaire audio Bande Son Organisée.
Je crois qu'à partir d'un événement, d'un drame, certains utilisent ce prétexte pour clamer leur haine contre les institutions de façon générale, et la police est particulièrement visée, mais aussi contre la société. Je crois qu'on a affaire à des gens déstructurés, désœuvrés, qui sont pratiquement irrécupérables et dont certains relèveraient plus de l'action médicale, voire psychiatrique.
Le point du milieu, c'est seul, et les quatre points autour, c'est entre quatre murs. Ça fait seul, entre quatre murs. Comme j'ai fait ici, j'ai fait l'asile psychiatrique. Je me suis retrouvé plusieurs fois seul entre quatre murs. quand je serai vieux, ça me rappellera des souvenirs d'enfance. J'étais au foyer, il y a eu 6 gendarmes qui sont venus me réveiller à grande bave dans la gueule et 4 infirmiers en blouse blanche avec des piqûres dans les mains. Ils m'ont dit soit on t'amène au vert à la campagne, ou soit tu vas ailleurs. Moi je me suis dit ils vont m'emmener je sais pas où. Je leur ai dit j'ai pas envie d'aller au vert, ils m'ont foutu en HP. Je pensais pas quand même que j'allais finir en HP. J'avais des couteaux dans ma chambre. J'avais un couteau de l'armée, j'avais 3 couteaux papillons et j'avais une serpette. Quand les gendarmes m'ont réveillé, je voulais me servir du couteau militaire, mais le gendarme il l'a calculé, donc j'ai eu 3 armes pointées sur la tête et ils m'ont dit soit tu nous le donnes ou soit on te tire dessus. J'ai préféré le donner. Pour un rien, je pouvais démarrer très vite avant. C'est là d'un côté que je regrette que j'ai pris le caractère à beau-père. Juste pour un ta gueule ou casse-toi ou un truc comme ça, j'étais obligé de taper. Pourquoi, j'en sais rien. Ça, faut pas me poser la question. Et puis, après ça a déclenché que, à force que je me batte, des fois c'était quasiment jusqu'au coma que je me battais. Et les gens, ils ont dit, ouais, il est fou, faut l'envoyer en hôpital psychiatrique. Après, je sais que sur les personnes que j'ai tapées, eux, ils pensaient que j'étais fou. Casser 4 côtes à un éducateur, casser l'arcade, 6 dents à un éducateur, casser 3 côtes à un flic. Y a plein de trucs comme ça. Ça, c'est sûr qu'on va pas comprendre à ce moment-là.
Quand tu dis, ne demandez pas pourquoi je suis violent.
Parce que je vois ça depuis que je suis tout petit. J'ai vécu ça pendant que j'étais petit, et puis ça a continué jusqu'à un bon bout de temps. Donc après je suis rentré dans ce système. Ah ça y est, j'en suis sorti de ce système là. Ça fait pas longtemps que j'ai remarqué mes erreurs, ça c'est sûr, ça en arrivant ici. Et en voyant le mal que j'ai fait à mes parents, déjà rien que de voir ça, ça fait réfléchir déjà dans la tête.
Et donc l'HP, t'avais pas de contact avec des gens?
Non.
Pendant 1 an? Ta famille, elle est venue?
Non. Ils savaient même pas où j'étais. Même le foyer, il leur avait menti.
C'est-à-dire?
Il leur disait que j'étais parti en séjour de rupture, je sais pas où, loin d'ici. Mes parents, ils y ont cru. Et c'est en revenant que, ils ont su la vérité. Ils sont devenus fous. Encore plus que les fous qu'il y a à l'hôpital psychiatrique, sa mère.
Tu voyais un psychiatre à l'hôpital psychiatrique?
Ouais, des fois, je lui parlais jamais. Il venait, je lui disais, qu'est-ce que tu veux, toi? Retourne là-bas, va, me casse pas les bonbons. Laisse-moi en paix.
T'arrives à être en paix là-bas?
Non. À la fin, je parlais tout seul dans ma cellule. Tellement on devient fou là-bas. À la fin, je parlais tout seul dans ma cellule.
Ça fera bientôt 3 années. 3 années qu'elle est internée. Internée avec les fous, avec les fous. C'est à cause de si elle est là seulement, voilà, on ne la croit pas, mais un jour ça va éclater. La vérité, alors comme elle en a assez de pleurer, de toutes ses forces, elle se met à crier. Mais puisque je vous dis que je suis pas folle, vous m'entendez? Je suis pas folle, je suis pas folle, je suis pas folle. À chaque fois, il y a les blouses blanches, encore et toujours les blouses blanches.
Elles
lui disent non, vous n'êtes pas folle.
Même moi, je me demandais ce que
c'était. Pas folle, pas folle.
Dormir, aller fumer, manger, dormir, aller fumer, manger. Des trucs comme ça.
T'avais pas de télé? Ou t'avais d'autres activités?
J'avais rien du tout. obligé de rester dans la chambre à boisir. Les seules fois que je sortais, j'étais entouré de quatre murs en Pepsi-Glace avec The Grudge à côté de moi. The Grudge, la femme du film d'horreur. Elle était pareille en plus. C'est ça qui me faisait speeder. Des fois, il y avait des fous le soir, ils venaient devant ma porte, ils ouvraient le truc, ils me regardaient, après ils partaient en courant et ils criaient comme des fous. Même moi, je me demandais ce que je foutais là-bas. On n'a pas la notion du temps là-bas. On sait pas combien de jours on y reste, on sait pas combien de temps on y est. On n'a pas d'informations. Quand tu veux parler à quelqu'un, le seul truc qu'il te dit, c'est « bonne nuit ». Il te met la piqûre, tu t'endors. Il n'y a rien d'autre.
Et du coup, le traitement par les médicaments, t'en penses quoi?
C'est con. C'est con parce que ça ne sert à rien. Ça, c'est sûr, ça empêche la violence et tout. On va dire ça canalise. Mais si la personne arrive à en sortir, certes, il sera calme, mais le jour où il va péter les plombs, eh ben, il n'y aura plus personne pour l'arrêter. Et comme on m'a toujours appris, un homme qui a plus rien à perdre est l'homme le plus dangereux.
Et tu penses que le fait de prendre des médicaments, ça peut te faire perdre des choses?
Oh oui, beaucoup de choses même. Bah, comment dire? Il n'y a pas vraiment de mots pour expliquer ça. Quand on est enfermé à 24 comme ça dans une pièce toute blanche, avec une blouse blanche, voir tous les jours du blanc, pas voir un seul pet de soleil, à la fin on devient fou. Ça fait perdre que on se dit ben faut que ça s'arrête et que ben à la fin ça part en pensée et que ça veut se suicider. Ouais.
Vous étiez dans un secteur d'enfants ou un secteur
majeur?
Majeur. T'avais quel âge?
14 ans.
T'étais avec que des adultes.
Bah vous devez peut-être le connaître, l'hôpital psychiatrique de Pau. Il y a eu deux infirmières décapitées. J'étais là-bas. J'ai vu ce qui s'est passé. Ils avaient relâché un type pour un week-end. Le type, le problème, c'est qu'en sachant qu'il revenait à l'hôpital, il a pété un plomb. Ça l'a saoulé, il est revenu, il a décapité deux infirmières. Il y a une tête qu'ils ont retrouvée devant la télé et il y en a une autre qu'ils n'ont pas retrouvée. Il était secteur 7, j'étais secteur 6. J'ai plus vraiment souvenir de ça, mais bon. J'ai surtout essayé de l'oublier. Et à la fin, ben, même eux là-bas, ils disaient que j'avais pas la mentalité d'un fou, donc ça servait à rien de me garder. Ben, je suis sorti, et puis après, ben, c'est là où je suis parti dans la fumette, dans les trucs comme ça. Pour essayer d'oublier. Mais bon, on n'oublie pas tout ce qui arrive. C'est ça le problème.
Tu te rappelles quand tu disais que je faisais partie de ces gosses qui ne s'en sortiront jamais, intenables et bien trop féroces, qui salissaient ton sang plein d'obéir au doigt et à l'œil, qui n'avaient que des cendres et un besoin de vivre à 100 à l'heure. Tu te rappelles quand tu disais que j'atteindrais pas les 16 piges, que je finirais mort dans un coin de rue où j'y serais l'âme d'une gosse perdue qu'on n'avait plus rien à carrer, ou un avenir en cellule derrière les barreaux ou chez les tarés, connard. Tu te rappelles quand tu pensais clamer que j'étais bonne, qu'à fuguer, qu'à faire la conne ou à me défoncer, l'exemple en face celle que les lois haïssaient, pointé du doigt et qui puis ses 12 piges n'est plus scolarisé. Bref, la totale. Tu te rappelles que quand tu parlais de moi, tu ne parlais jamais au futur. Putain, j'en avais marre des fois toutes ces conneries. Mais regardez, sois pas dégoûté, mais je suis en vie et je regrette pas t'avoir jamais écouté. Et connard, c'est à toi que je parle, dis-moi, tu te reconnais, directeur de centre et maison d'enfants. Et laisse-moi rigoler, monsieur qui sait tout, et c'est surtout pour détruire les gamins ou l'espoir des parents, connard. Personne ne peut prétendre demain. Et connard, c'est à toi que je parle, et j'ai pas oublié, t'inquiète, ni t'écoute pute, ni tes belles paroles qui finalement raquettent. Le peu d'espoir qui reste quand toi tu dis qu'il y en a plus, moi je m'en fous, j'ai jamais écouté, mais ma mère elle t'a cru. Tu te rappelles quand tu lui disais que mon cas était irrattrapable et que rejoindre le droit chemin, j'en étais bien incapable. C'était, on ne peut plus sauver cette sauvage, madame Foutifère. Mais qu'est-ce qu'il a cru? Tu allais me sauver toi ou ton Lucifer? Qu'est-ce que tu croyais? Connaître les mots, ma base de dressage, mais toutes vos institutions mènent à la perte. Tu captes le message? Alors, si tu crois toujours pour gagner l'obéissance, c'est par la force que ça se passe et que t'es toujours aussi insensé. Et qu'on a, pour nous assagir, c'était quoi tes méthodes? la ouais, droguer les mômes en gonflant leur tête de médoc et connard. Trop facile de faire couper des neuroleptiques à des petits teigneux devenus légumes par ta camisole chimique. Et connard, à tes yeux, on était quoi tous? Juste la mauvaise graine, hein, que t'écrasais histoire que rien ne pousse. Avec fourberie, deuxièmement, chair de revanche, tu peux toujours prier ton diable qu'aucun d'entre nous te vince.
Faut tenir le coup. Il faut éviter de montrer que t'es fou dans ta tête.
Oui. Ça, il y a d'autres gens qui le savent. Que t'as peut-être fait un an en HP dans un secteur adulte alors que t'avais 14 ans et que on t'a laissé sans activité dans une chambre où t'avais rien droit de faire.
Bon, il y a quasiment personne. Mes parents, mon frère, mes soeurs, mes collègues. Moi, ce qu'on m'a dit, j'avais pas le droit, mais bon. J'y suis allé, j'en suis ressorti, puis voilà, la vie elle continue. Ils vont pas s'arrêter pour moi.
Mais à l'époque, t'étais pas suivi par un éducateur de. Je sais pas,
éducateur à
ouais.
Mais lui, du jour au lendemain, il m'a lâché.
Et ce foyer-là, tu y retournais un peu?
Non. Depuis, je suis pas retourné en foyer. Mon éducatrice PJJ m'a demandé, je lui ai dit non. D'ailleurs, c'est pour ça que je suis là d'un côté. Parce que j'ai refusé tous les placements qu'ils m'avaient proposés.
Et du coup, ils t'ont mis en CER?
Ouais.
CER, centre éducatif renforcé.
Quand tu te retrouves seul entre quatre murs, tu penses à quoi?
Aux gens qui adorent. Ce qu'ils peuvent faire en ce moment. Ce que moi, j'aurais pu faire en ce moment si j'étais dehors. Des trucs comme ça.
Tu penses à l'avant?
Je préfère pas y penser, je préfère tourner ma page. Tourner ma page, recommencer tout à zéro.
Voix de barbelé avec des cris écrasés. Moi qui vous parle. La bouche cousue, moi qui vous parle. Dans un dédale de lessive, petit matin fumant, petit matin gelé, odeur d'absinthe, odeur d'urine. Moi la vieille femme appelant sa mère, moi l'enfant hurlant de rage, moi la lionne giflée, moi la lionne rampant, moi comme tout le monde, moi qui vous parle. Je suis un peu triste, alors je vais prendre mon médicament.
En fait, voilà, au lieu qu'ils vont devenir délinquants, ils vont devenir...
Non, mais nous, ils nous ont fait la même chose, hein, nous. Ouais, mais même en prison, ils nous le font, hein, ça. Quand tu vas chez le psy, là.
Tu te donnes des médicaments.
Ah, ils te donnent des médicaments. Mais moi, je trouve qu'au début, j'allais pas. Ils m'ont rusé, en fait.
Ça va.
Non, mais ils m'ont sorti, tu sais, des trucs de docteur. Tu vas voir, c'est contre le stress, tout ça et tout. Parce que moi, je me sentais étouffé. Je voyais pas ma famille, tout ça. Et voilà, et je les ai pris. Et je dormais toute la journée, à table. Je m'écroule, bam. Pour rien. Comme ça, des pertes de mémoire. Un petit médicament bleu, je connais même pas le nom. Ça se détruit. Tu es fini. Et ben moi, j'étais presque fini. Il y a certains cachets, ils sont pas bons à prendre.
Il y a des trucs que je veux dire. Il y a des trucs, voilà, des trucs comme ça. C'est des trucs de malade. On est obligé de.
Ah, tu vas le faire devenir un légume. Ah, tant qu'à faire, tu lui fais une piqûre et ça y est, on n'en parle plus. Que leur donner des cachets, ça résout rien.
Tiens, encore des jeux. Des jeux pour te légumiser, regarde. Hein? Comme si tu te bourrais volontairement de tranquillisant. Ils ont dû te filer plein de calmants. Hein? Des drogues. Qu'est-ce qu'ils t'ont filé? Thorazine, Aldol? Combien? Il faut connaître les produits et les doses, c'est élémentaire.
Bah ouais, c'est avec les médicaments que tu
deviens fou.
Ouais. Parce que ma
cousine. Parce que t'en deviens dépendant, c'est ça?
Parce que quand tu prends un cachet de psychiatrique, je te dis un exemple. Ma cousine, tu vois, elle était en psychiatrique. Bah, c'est une fille, elle a fumé du shit, elle s'est sniffée. Et un jour, elle est rentrée chez elle a dit je deviens complètement folle, je vois des choses dans les nuages. Et mes oncles, tout ça, ils l'ont emmenée chez les fous, là, tu vois. elle est sortie de l'hôpital psychiatrique, ben maintenant tu vois ce qu'elle est devenue. Parce qu'avec ces médicaments-là, eh ben, tu deviens encore plus fou. Moi, qu'est-ce que je pense? J'ai jamais été et je voudrais jamais y aller. Mais tout cela que j'ai... Il n'y a pas qu'elle. Hein. Il y a mon cousin, il y en a plein qui sont rentrés dedans. Il y a des gens normaux comme toi et moi qui sont rentrés. Ça te rend encore plus fou, je crois bien. Parce que moi, tous ceux-là qui sont rentrés, qui sont sortis, ben, au jour d'aujourd'hui, ils se promènent dans la rue, ben, moi, j'ai peur de les voir. Parce qu'ils sont devenus encore plus fous. Et ces gens-là, eh ben, ils sont accros au cachet maintenant. Parce que s'ils prennent pas ça, ils font des crises.
Des crises.
Ah, ils font des crises, des crises. Moi, j'ai vu ma cousine brûler sa caravane devant moi, brûler son linge. Parce que sa sœur, elle avait pris juste un maillot et elle n'avait pas pris les cachets. Elle a fait une dépression. Elle a tout cassé dans la caravane. Elle a brûlé tout son linge. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'elle était en maison là-bas. Mon cousin, c'est pareil. Il est venu fou. Il a pris un couteau. Il a voulu planter sa mère. Tu vois? Et tu te dis, est-ce que c'est ça qui va te rendre bien?
C'est pour soigner et au final,
En fait, non, t'es pas soigné, moi. Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que je vois chaque jour? Non, c'est pas avec les cachets que tu vas être soigné bien.
On l'appelle folie. On l'appelle.
Après, moi, j'avais pris des trucs, des médicaments pour les nerfs, tu vois. Et moi, je trouve que ça n'a rien changé du tout. Ça m'a pas empêché de m'énerver ou des trucs comme ça. Ça m'a pas mis calme. Ça m'a rien fait du tout, moi, je trouve. Je trouve, ouais, ça sert à pas grand-chose. Après, c'est mon avis, quoi. Après, j'ai pas connu assez de gens prendre des médicaments pour vous dire un bon truc, quoi. Mais pour ce que j'ai vu, ça n'a pas changé grand-chose. À part le voir se dégrader, rien d'autre.
La part des mineurs dans la délinquance est de plus en plus importante. Aujourd'hui, un acte de violence sur 5 commis en France est le fait de mineurs. Depuis juin 2007, le taux de réponse pénale aux actes de délinquance des mineurs a beaucoup progressé. Le nombre de présentations immédiates de mineurs au juge est en forte augmentation. Actuellement, le garde des Sceaux travaille à la refonte de l'ordonnance de 1945 relative à la justice pour créer un code de justice pénale des mineurs. 7 établissements pénitentiaires pour mineurs sont aujourd'hui en service. À la fin de l'année, 45 centres éducatifs fermés seront en fonctionnement, dont 5 centres éducatifs pédopsychologiques qui totaliseront près de 500 places. Et nous avons prévu en 2010 2 ouvertures supplémentaires de centres éducatifs fermés.
Ah, ils veulent vraiment mettre les jeunes en prison.
Ils veulent vraiment nous enfermer. Ah ouais.
Ils veulent vraiment qu'on soit droit. Ça va faire qu'empirer avec... Avec des trucs comme ça. Là.
On est en prison pour mineur. Ben non, on y rentre pour rien. Moi, c'est comme ça que je le prends. Mais genre, pour un vol de voiture, partir en prison, je trouve ça quand même abusé. Surtout quand on est mineur.
Mais maintenant, je trouve qu'ils sont trop sévères avec nous. Moi, je sais que voilà, pour une bagarre, je me suis retrouvée à la prison des mineurs. Je veux dire, dans la vie, tout le monde se bagarre. C'est pas grave. Donc, il faut arrêter de... Ils sont trop... Tu lui fais ça, ça y est, voilà, ça y est, tu es un voyou. Faut qu'on t'envoie en prison. Faut arrêter.
C'est pour des petits délits. Après, en récidive, tu vois, mais pour des petits délits. Pour des vols, pour des cambriolages, pas des gros délits, quoi. Après, tant que tu fais pas de meurtre, de viol, après, séquestration, c'est quand même un gros truc, quoi. Mais tant que tu fais pas de trucs comme ça, ça va, ça reste des petits délits, quoi. Bah, la plupart du temps, c'est soit on cherche de l'argent, ou soit on nous doit de l'argent. Donc après, voilà, quoi. Comme la vie, elle est plus chère, bah, plus on a besoin de sous, plus on se démerde pour trouver les sous, quoi. Peu importe, braquage, cambriolage... Vol à l'arraché, peu importe, quoi. Tant que ça peut rapporter, bah, on se fait de la maille, quoi. Quand ils ont envoyé mes frères en prison, je pétais les plombs. Voilà, ça te fait mal au cœur un peu, tu vois.
Je leur rends hommage, là, j'exprime ma rage. J'ai mal au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Je leur rends hommage, là, j'exprime ma rage. Contre un système qui trace nos vies, des limites, nos limites. Ils font plonger puis remonter à la surface selon leur gré. selon leur bon vouloir. Un peu de pouvoir sur les trottoirs, nos frères noirs.
Savoir ce que c'est d'être noir.
Avoir la poisse qui te colle à la peau.
Négro,
fier de l'être, même si tu me colles une étiquette. Tu me parles de cash, gloire, soleil et t'aspect. Ou à la longue, matriculé, maté, enculé. Dis Mourad, les élus ont une clé. Pas les clés d'un coffre-fort, mais les clés de la vérité. Dois-je penser, tous merdiers, fumant, négancés. Rémédité, financé par de hautes autorités. T'enfermer n'est qu'un moyen comme un autre. Quand ça chiffre au milliard, faut surtout pas que tu te vôtres, hein. Ceux qui siègent en haut, savent à quoi je fais allusion. L'intégration à leur nation, une illusion. Car ils ont arbitrairement fixé les règles du jeu. Soit tu marches comme ils l'entendent, soit tu ne fais pas le feu. Et en France, tes chances de progression sociale sont presque nulles. Quand t'es parti du bas, plus les obstacles s'accumulent. Suivre des études en famille nombreuses, c'est deux fois plus de courage. Deux fois moins de distraction, plus de rage. Qu'on comprend pas à tout âge. Mais ici tu payes de ta vie les erreurs du jeune âge. Et au passage, dédicace à Mista et Ibal. Puis à chaque frère autour de moi ayant connu le milieu carcéral. Ils sont les prisonniers des murs de béton. Dehors ou dedans, pour nous c'est la même. Dedans on rêve d'être dehors. On veut nous foutre dedans. Parce qu'en fait de ce système nous recherchons l'évasion. Y'a tellement de choses injustes qui peuvent arriver, comme d'être incarcéré pour un crime que tu n'as pas commis. À ceux qui prônent la dure, c'est tout pénal. Ouais, qui se retrouvent devant le tribunal. Enfin ils regrettent qu'ils manquent à leur famille, que leur famille leur manque. Qu'ils ressentent enfin ce manque lorsque la parole devient langue. Qu'ils aient mal, mal tout comme j'ai mal que la parole au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Que la parole au cœur quand je pense à mes frères qui sont en prison. Que la parole devient langue. Là j'exprime ma rage. Lève-toi, lève-toi, garde le bras en l'air. Manifeste-toi si tu veux le faire pour tous nos frères qui sont en prison. Tous les prisonniers des murs de béton qui ont frôlé la justice et n'ont plus pro. Pardon, lève-toi, lève-toi, garde le bras en l'air. Manifeste-toi si tu veux
le faire. C'est ma vie, c'est normal, c'est mon frère. Quand il était en prison, j'avais des liens, mais les autres, j'avais plus moyen. J'étais trop petit. Il était à Bois d'Arc. Quand j'habitais à Argenteuil, ma mère, ça a été dur. Après, mon père, le même. Puis voilà. Et mon père, il est en prison. Il est en prison, il a fleuri. J'ai perdu contact avec lui. J'ai envoyé une lettre au truc pénitentiaire, là, je sais pas quoi, là, à Paris. Et il n'y avait que dans deux prisons qui pouvaient être. J'avais une idée sur Fleury, parce qu'il était tout le temps là-bas quand il allait en prison. Soit il était à Fleury, soit il était à Nantes. Parce qu'il y a quelqu'un de ma famille qui m'a dit qu'il pouvait être à Nantes. Et j'ai envoyé une lettre à Nantes, j'ai reçu aujourd'hui. Il est pas à Nantes, donc il a fleuri.
Il y en a eu qui a été en prison, il y en a un qui vient de sortir, il y en a encore en prison. Des zincs. Un oncle à moi, il a failli y aller, il a eu le bracelet pendant 6 mois. Après j'en ai eu un autre qui a eu le bracelet. Bon, après il y a beaucoup de violence. Hein. Je sais pas, ça fait drôle, tu vois, de pas les revoir. Pendant plusieurs, des fois des années, tu vois, des fois des mois. Tu vois, ça fait bizarre, mais après c'est comme ça, c'est pas autrement. Tu fais des conneries, t'assumes, tu portes tes couilles.
Et voilà, après c'est la prison, mais c'est toujours le même univers en fait. C'est comme dans ton quartier, c'est les mêmes règles.
Ouais. Bah, quand je suis rentré au début, ça m'a fait bizarre. J'ai pas fait longtemps, mais je sais comment ça marche. Moi, quand j'y étais, personnellement, les sensations, ça fait bizarre. Ça fait bizarre parce que tu te dis, t'es pas dehors, nanana. Bon, après, moi, je connaissais du monde là-bas. J'avais envie de fumer, je fumais. Si j'avais vraiment un gros souci, j'avais du monde derrière moi. Ça, c'était pas le souci. Après, voilà. Première semaine, j'étais en cellule d'arrivant. J'étais pas avec les autres, j'étais avec personne, je mangeais avec personne. Après, deuxième semaine, j'étais en cellule normale. Et je continuais la télé. Et voilà, tu fais passer le temps, tu lis, tu pompes.
L'école sévère, c'est plus un système pour aider les jeunes que pour les enfoncer. Bon, moi, je prends ça comme ça. Parce que pour moi, ça, c'est la colonie de vacances. J'ai vécu des trucs plus durs. Et puis, bon, ça, c'est rien, contrairement à ce que moi, à côté, j'ai vécu. Bon, après, on a tous un vécu différent, mais bon.
partager ma peine avant même d'être ici toute ma vie. Ils ont pas compris ça, les teignes qui m'ont puni. Que la vie fut une chienne avec moi comme avec ceux qui ont dans les yeux trop d'amour ou trop de haine ou trop des deux.
Moi je sais que ça ici c'est rien. Comme je disais ici quand je suis arrivé, je dis c'est la colonie de vacances moi ici. On travaille, ça nous met déjà dans le droit chemin, ça nous apprend à travailler, à arrêter de toucher au shit, des trucs comme ça.
Vous allez mettre des jeunes dans un CER, ok. Mais qui va nous dire, qui va vous dire qu'ils vont pas recommencer après? Personne. Vous allez les mettre en prison et vous ressortir, ça se trouve, ils vont faire pire. Moi voilà, moi depuis que je suis dans cette structure, j'ai quand même foutu le dawa. Hein. J'ai piqué le camion, j'ai fait des fugues. C'était le début. Puis en un, elle était chaud. Le deux, ils étaient chauds. Le trois, ils étaient chauds. Vas-y, on est parti. Hein. On était punis dans notre chambre. Puis voilà, il y en a eu deux comme ça. La troisième avec le camion. Bah, on s'est barré avec le camion. Et en fait, on s'est fait péter à Clermont-Ferrand. Il y en a, il a appelé la police. Ouais, venez me chercher, lui qui était avec moi. Ouais, venez me chercher, j'ai froid, j'ai faim, nanana. J'ai vu les keufs arriver. Moi, je suis parti en courant. C'était à 2h du matin qu'ils m'ont serré. Ils m'ont serré vers 6h. Trois voitures de police, deux voitures de la BAC. Et après, bah, tu connais la suite, hein.
Bon, c'est vrai que c'est du temps perdu, enfin, ouais, parce que t'es à l'écart de ta famille, tes potes, t'es loin, voilà. Mais tu fais des connaissances, bonnes et mauvaises, hein, voilà. Mais en même temps, on va dire la nuit est porte-conseil, c'est le soir que tu penses. Tu penses que tes potes ils sont au quartier, toi t'es là dans ta chambre, tu galères. Et t'es avec des mecs qu'on n'a pas tous la même situation. Par exemple, il y en a, par exemple, pour moi, je trouve qu'ils avaient un affaire au foyer, tu vois. Leurs parents, ils étaient en divorce, voilà, et le temps qu'ils aient la garde, donc le juge voulait pas faire de préférence, je vais donner au père ou à la mère. L'enfant, il était placé au foyer, il est pour rien, mais il a vu, voilà quoi, il avait rien à faire là-dedans. Et il y en a qui étaient au foyer depuis tout petit, ils étaient à la DAS, ils étaient en famille d'accueil, ils ont foutu le bordel parce qu'ils ont craqué, c'est dur quand t'as pas de parents, voilà, donc ils sont retournés au foyer. Il y en a parce qu'ils s'entendent pas avec leurs parents, ils sont allés au foyer, d'autres parce qu'ils sont venus d'Afrique, voilà, enfin, bah, il y a tout dans le foyer, tu peux rencontrer tout, et puis voilà, c'est à toi de rester fort, de pas craquer. Hein. Il y en a qui se coupaient les veines, voilà. Ou il y en a, ils voulaient jeter par la fenêtre, voilà. Parce que c'est pas agréable, quoi. T'es toujours suivi par des éducateurs, tu fais une sortie, t'es toujours avec des éducateurs, t'as pas hâte de sortir. Hein. Voilà, si t'as le week-end, tu peux peut-être rentrer chez toi. Voilà, après, pareil pour le CER, c'est la même chose. Hein. Ouais, c'est pareil. C'est pareil. Toujours des éducateurs, et ta liberté, tu la sens pas, quoi. Voilà. C'est pareil. Après, si t'es calme, peut-être t'as des week-ends, tu peux aller en week-end chez toi. Mais après, ça, c'est t'es tenté de pas revenir. C'est normal que tu tapes la fugue. Hein. T'es tenté de pas revenir. Ah, parce que tu savoures ton week-end, et le week-end, il est court. Hein. Il est court. Le samedi, tu le profites. Le dimanche, c'est un jour triste. Le dimanche, voilà. C'est le jour de Dieu, mais dans le quartier ou quoi, bon, les bus, c'est pas la même. Voilà. Donc, voilà, c'est. Après, on est déjà lundi, et lundi, tu dois retourner. Voilà, t'es tenté de pas y aller, quoi. Tu préfères rester savourer ta vie, faire ta petite cavale, une petite fugue, voilà.
J'ai jamais squatté la routine, et le manque de vie qui se tasse, sac à dos, à arrache, allez hop, je me casse, et je vais pas passer ma vie, prisonnière de la leur, qui t'a galéré ici, je m'en vais galérer ailleurs. Ciao, ciao, les éduques, je me barre, vous pouvez appeler les flics, fermer la porte, je passerai par la fenêtre, c'est clair. J'ai ma liberté qui m'attend, juste devant, je vais pas la faire patienter, 1, 2, 3. Ciao tout le monde, allez pas le temps, bon blabla, je suis toujours la seule à partir. Putain, aucun de mes potes n'a jamais été de la partie, là où le système en sorcelle, à coup de vibes sorties, pour moi un enclos est fait pour essayer d'en sortir, alors je me barre. Besoin d'aller respirer autre part, ici on veut me dresser, me faire avancer ou pas. Moi j'ai besoin de liberté, de vibrer dans son aura. Les flics au cul, je les entends dire la petite en aura. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre.
couleur à mes trousses portées par le vent. Allez dire aux uniformes sur les nerfs qu'ils ne m'attraperont même pas en rêve. Même nuit dehors, réveillé par un frisson, un éveil, même quand je dors connecté à mon intuition, j'ai rien à craindre. Percé par le chant de la lune, la chance dans les mains libres, enfant de la rue. Loin du monde des adultes, illogiques et rigides, fugitifs de leur enclos, n'a qu'un flic et vigile. C'est peut-être con, mais c'est ainsi, j'insiste. Vos lois sont immorales, ma délinquance a des principes, alors laissez-moi en paix. Vous pouvez toujours attendre si vous voulez voir en paix. Plutôt une balle dans la tempe enivrée, où mon cœur me porte, je m'en irai. Moi je suis faite pour vivre entre les mailles de vos filets. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port. Je me barre, tcha tcha le foyer, je me barre. Je m'en vais respirer au port.
Dire que tu montes les grades, hein. Voilà, c'est un escalier que tu montes, hein. Foyer, CE, après prison. Voilà, pour moi, c'est un escalier. Hein.
C'est pas parce que je suis dans un CE que je vais changer. Hein. Si j'ai pas envie de changer, je changerai pas. Si j'ai envie de changer, je changerai. Ouais. Mais bon, ça m'a fait réfléchir quand même un peu. Ouais. Je vais pas dire le contraire. J'ai pas passé 3 mois dans le gaz. Pour rien. J'ai pas passé 3 mois à rester au même point, quoi. Ça fait quand même réfléchir un peu, mais sans plus. Il y a encore une semaine de ça, j'ai pété des coups de tête à un éducateur. Parce qu'il me dit, ouais, lève-toi. Moi, je suis en caleçon. Je lui dis, sors, je vais me lever. Lève-toi. Casse-toi, je vais te mettre un coup de balai. Il veut pas comprendre. Je me lève, il m'attrape comme ça, je pète un coup de balai. Je lui dis lâche-moi une fois, lâche-moi deux fois, lâche-moi trois fois. Il n'a pas voulu me lâcher. J'essaie de lui mettre des coups de genoux, je suis pas arrivé. Il restait plus que la tête. J'ai mis des coups de tête, je lui ai fendu l'arcade en deux. Maintenant je regrette, voilà. Puis c'est tout. Parce qu'en fait c'est un bon éducateur, voilà. C'est pas qu'il s'est énervé. C'est qu'il, je sais pas, il a voulu faire tminique le mec sur homme ou je sais pas. Montrer que c'était lui le bonhomme ou je sais pas quoi. Et moi je me laisse pas faire comme ça. Parce que si tu te laisses faire une fois, te laisses faire deux fois, te laisses faire trois fois, c'est fini. En plus je suis le plus petit. Les autres ils vont croire que t'es le plus petit. Donc lui, ils vont croire que c'est la pédale ou je sais pas quoi. Souffre-douleur on va dire. Il faut montrer que bah t'en as dans le pantalon. Parce que sinon, bah, si tu laisses passer une fois, tu laisses passer deux fois, tu laisses passer trois fois, après c'est fini. Donc faut montrer que t'es là.
Ah mais le pire c'est qu'il nous voyait pas une fois qu'on est enfermé, une fois qu'on est en cellule, et qu'on se retrouve avec quelqu'un qui a fait pire que nous. Voilà, et quand ça chauffe en cellule, qu'il y a une dispute et tout. Alors là tu peux l'appeler le surveillant, il vient pas de suite. Hein. Mmh.
Il attend bien que la pasta se finit et après il vient.
Après, ouais. Après, quand tu commences à être mal, voilà. Après, tu as des idées noires. Tu commences à vouloir te tailler les veines, te pendre, tout ça et tout. Tout le monde peut y aller en prison. Mais certaines personnes, ils veulent pas comprendre que c'est dur. Voilà.
C'est de la prison que je t'écris, mon pauvre Poli. Hier, je ne sais pas ce qui m'a pris à la visite. C'est des maladies qui se voient pas quand ça se déclare. N'empêche qu'aujourd'hui, je suis dans le tas à Saint-Lazare. Mais pendant ce temps-là, toi, vieux chien, qu'est-ce que tu vas faire? Je ne peux t'envoyer rien de rien, c'est la misère. Ici tout le monde est décavé, la braise est rare. Faut 3 mois pour faire un...
Mais je sais quand j'étais à la prison des mineurs, je dis pas que je me la coulais douce. Il y avait des fois, on me punissait, mais pour rien. J'avais rien fait, on me disait, ouais, tu as fait, voilà. Donc tu dois faire ça. Je sais pas.
C'est pas bon, même.
C'est pas parce que tu es en prison.
Ouais.
Je vous jure, le manger qu'ils nous donnent.
Bah, c'est la merde.
Tu le donnes, je te jure, même un chien, ou là, il ne mange pas. Un chien, pourtant, les chiens, ça mange tout. un animal, ça mange tout. Eh ben non, là, il ne mange pas, il ne touche pas, il le repousse. Il préfère crever de faim que manger ça.
Voilà. Et on te coupe de ta famille, tout, ouais. Tout ça. Et quand on te chope avec un portable, eh ben on te met quelques mois en plus. Voilà, c'est ça le pire.
Moi, je sais que ma mère m'en a voulu. Ça, c'est normal. Mais je sais que, voilà, on ne nous a pas laissé le moyen de bien s'exprimer. Des fois, voilà, on envoie des lettres. Moi, je trouve que c'est pas normal qu'ils lisent les lettres avant de nous les donner. Moi, je sais qu'ils lisaient toutes mes lettres avant que je les donne à ma mère. Et que ma mère, quand elle m'envoyait des lettres, on les lisait. Et je trouve que c'est pas normal. Il y a des trucs intimes dans les lettres. Ils ont pas à lire. Nous, on vient pas lire leur courrier. Même si ils ont pas. C'est rien, tu as fait des conneries, tu payes, mais tu n'as pas à lire le courrier, tu n'as pas. Je veux dire, on doit avoir des moyens de, voir nos de parler avec quelqu'un, voilà. Avec les gens de l'extérieur, sans être. Comment dire, sans être fliqué. Déjà, ça y est, tu es en prison, tu veux nous faire quoi? Enlève-nous les lettres, ni le parloir, ni rien du tout. On n'a plus rien après. Moi, je dis que quand on sort de prison, il y en a. Il y en a, ça va vraiment les choquer. Comment ils sont. Ils se disent, pourquoi ils nous traitent comme ça?
Et il y en a plein qui rentrent en prison et ils sortent sur un brancard. Ou alors ils vont en HP chez les fous là-bas. Et voilà, et c'est ça le pire. Mm. Voilà, et moi je pense pas que ça peut mettre un homme sur le droit chemin. Au contraire, parce que j'ai vu beaucoup de mes collègues à moi, même des gens de ma famille, des proches, qui sont sortis de la prison, ils étaient cassés par ce système, tout ça. Voilà. Et c'est pas bon tout ça.
Ça n'a rien d'être enfermé, ça. Mais je veux dire, ça va plus on va plus gamberger à dire ah ouais, m'enfermer, ben ça va, t'inquiète, quand je sors, je vais me rattraper pour toutes les années ou les mois que j'ai fait, je vais me rattraper dehors.
Et puis moi-même, j'ai goûté à la prison, j'ai fait les mineurs et les majeurs, et je peux dire que ça change rien. Une fois qu'on est sorti, ben. En vérité, on est toujours les mêmes parce qu'on goûte toujours aux mêmes choses. Voilà, toujours à la violence, à tout ça, et ça résout rien au final. Non, voilà, c'est pas une bonne solution. Voilà.
Moi, je sais, j'ai fait à la prison des mineurs. Je fais des. Bon, je n'ai pas braqué ou quoi, mais j'ai fait des bagarres et tout. Et je sais que, voilà, demain, je sais que si on m'embête encore, je serai prête à continuer.
C'est encore quand on rentre en prison, quand on est majeur, ça peut passer, mais quand on rentre en mineur, qu'on sait que après ça, c'est chaud pour trouver du travail et tout, c'est ce qui va attiser encore plus la flamme. Et c'est ça qui va foutre plus le bordel. On sait qu'il y a un jeune qui est parti en prison, déjà on va se demander pourquoi il y est parti, d'une, et deux, on va se dire, voilà, pour certains, s'il a fait telle et telle connerie, qui nous dit qu'en venant travailler ou même pour n'importe, en venant faire ça, qui nous dit qu'il va pas recommencer. Déjà ici, on a tous une étiquette. Il y en a, ils ont des étiquettes de voleurs, il y en a, ils ont des étiquettes de violence, il y en a, ils ont des étiquettes de il y en a, ils ont des trucs de fou sur le dos.
Bon, après, dès que je sors, je trouve un petit métier, je passe mon code, mon permis, tranquille. Voilà.
Bon, c'est plutôt sortir de la merde, c'est réussir ma vie et pas finir clochard sous un pont. Je suis resté un an à la rue, je sais ce que ça fait, je préfère m'en sortir qu'y retourner.
Bon après voilà, je vais pas vous mentir, c'est quelqu'un qui va me faire chier, je sais que je vais pas réussir à m'en contrôler, tu vois, s'il y a quelqu'un qui va faire le beau avec moi, je serai obligé d'y aller le taper. Je sais pas, je suis comme ça. Bon après peut-être des fois je peux me contrôler, mais des fois non, comme tout le monde. Après, s'il y a quelqu'un qui m'insulte au nid de ta mère ou je sais pas quoi, quoi. Après, je suis obligé d'y aller dedans, j'ai pas le choix. Hein.
Moi, je dis, là, tu fous quelqu'un en prison, c'est la rage qu'il aura. Ce qu'il a enfermé pendant une année, deux années, six ans, sept ans, bah, la personne, elle va pas être contente. Elle va voir les nerfs et tout. Bah, quand on va sortir, ça va être dix fois pire. En sévère, c'est la même. On essaie de s'en sortir et tout, mais quand on va sortir, c'est nous. On va revenir chez nous. Ça va pas être la même. Personne va être là. Ouais, vas-y, tiens, je te donne la main pour t'aider, quoi. Bah non. Ils vont nous refoutre de notre endroit. Et nous, on va se redémerder pour avoir de l'argent. Et ça va faire. C'est la roue qui tourne, quoi. C'est toujours le même truc. Ça s'arrêtera jamais, obligé. À moins que l'État, il veut bien donner de l'argent aux pauvres, quoi. Mais ça, jamais de la vie, quoi.
Voilà, donc vous venez d'écouter Entre quatre murs, une des parties du documentaire audio Bande son organisée que vous pouvez aussi trouver sur internet sur le site bandeorganisée.org. Voilà, et tout ça pour dire et pour rappeler que le vendredi 9 mars à la Gueule Noire, au 16 rue du Mont, quartier Bellevue à Saint-Étienne, il y aura une soirée de soutien anticarcéral sur le thème particulier de l'enfermement des mineurs et en soutien aux inculpés de la Belge qui sont des gens accusés d'avoir saccagé entre guillemets les locaux de la protection judiciaire de la jeunesse à Toulouse. Et cette action était en soutien en protestation contre l'enfermement des mineurs et en soutien aux mineurs qui s'étaient révoltés à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Lavaur vers Toulouse. Voilà, donc bref, tout ça c'est le 9 mars. Et c'est à quelle heure? Eh ben, je sais pas, c'est pas écrit sur le petit papier. Ah pardon, à partir de 19h le 9 mars, il y aura un repas qu'on pourra prendre tous ensemble. Il y aura des tables d'information et à partir de 20h30, donc écoutez de témoignages et discussion sur l'enfermement des mineurs.
Voilà, donc on va continuer dans les annonces. Toujours à la Gueule Noire, au 16 rue du Mont, quartier Bellevue à Saint-Étienne, il y aura un concert de soutien à nous-mêmes, à Papillon, pas organisé par nous, mais par Jean-Charles, avec... avec... ça me fait rire. Avec Gas Masterer du Crust, on va dire, de Bordeaux, Télécommande du Punk Rock de Lyon et Pleine Crasse de Grenoble et un autre groupe dont on sait toujours pas. Donc voilà, si vous voulez nous soutenir et écouter de la musique de Sauvage, et ben vous venez à la Gueule Noire le 24 mars vers 21h. Voilà. Donc on va se laisser, c'est la fin de cette émission. Oui, du coup on va rappeler l'émission, l'adresse quand même. Donc si vous voulez nous écrire, donc c'est c'est toi qui devais. Ah oui, pardon. Non, désolé. Comme on dit, les programmes sont faits pour être chamboulés, mais bon, on va pas les chambouler.
Ou alors vous pouvez nous écrire à émission Papillon chez. Oui, mais attends. Je reprends, émission Papillon, chez CSA La Gueule Noire, 16 rue du Mont, M-O-N-T, 42100 Saint-Étienne. Pour la rediffusion de l'émission sur Radio Canu, ça sera le mardi, le troisième mardi du mois, à 20h. Donc Radio Canu à Lyon, 102.2. Voilà, et donc... Notre adresse mail pour les gens qui sont à l'extérieur, donc c'est emissionpapillon@riseup.net. Donc venez au concert de soutien, venez à la cantine, merci de nous avoir écoutés. Et en tout cas, on attend vos courriers, vos réactions, etc., vos témoignages. Et salut à ceux qui sont à l'intérieur, à la Talaudière. Salut encore à Laurent, à Corba. Et on se dit au premier dimanche du mois d'avril. Voilà. Ciao tout le monde.
Ciao.
Ouais, bon courage à tous les détenus, à leurs proches. Surtout ceux et celles qui baissent pas les yeux, quoi.
Allez, salut.
Ciao.
Cellule au premier étage. Je travaille en centrale pour tous mes petits braquages. À 4h du matin, je pionçais dans mon lit. Soudain, la sirène gueule et quelqu'un pousse un cri. Y'a du partout dans la tour. Y'a du bastou dans la tour. Y'a du bastou dans la tour. Qu'a fait les mecs, ça va saigner. Sont commencés à l'aile gauche de la tour. Déjà tous mes potes mettent à saccager les pions. J'ai dit allez les mecs, on se paye une petite fête.